Bienvenue à mon ciné balado, épisode dédié au film Ma fille, tu seras libre. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, salut.
Alors, on accueille dans le balado Bachir Ben Sadek.
Le cinéaste.
Que moi, j'avais eu la chance d'interviewer pour La Femme cachée, mais en papier. C'était le site web. Et la scénariste Marie Vien, quand même, qui avait fait, qui a scénarisé La Passion d'Augustine, Le Temps d'un été. Ouais. Donc, quand même.
Arlette.
Donc,
ben oui, on avait discuté avec elle pour Le Temps d'un été il y a quelques années.
Donc, deux personnes.
Je me demande si c'était pas la même année, en fait. Le Temps d'un été, puis La Femme cachée.
Je pense que oui. Il me semble que c'était l'été 2024. Oui. Alors, cette fois-ci, là, se lance dans un projet, un film quand même très percutant. Alors, je te laisse nous révéler de quoi parle ma fille, tu sais.
Petit synopsis, on est en Afghanistan au printemps 2002, forcé de se marier à un homme de 65 ans, un certain monsieur. Zarmina, qui a 15 ans à l'époque, fuit son pays pour Montréal. Mais sa liberté a un prix, c'est que sa fille devra un jour épouser son cousin qui, lui, est resté à Kaboul. Alors, le temps passe, tout ça va bien, mais une fois qu'il est rendu avec sa fille de 13-14 ans, même un petit peu plus tard que ça.
Un peu plus vieux, je pense, 16-17 peut-être.
Ouais, parce qu'il est au cégep, je pense, ou fin secondaire. Ben là, le pacte va refaire surface,
oui.
Sauf que là, Zarmina, maintenant, va dire « Ouais, mais là, ça n'a plus rapport, là, elle est née au Québec, elle n'a pas ça en tête pantoute. » Fait qu'il va venir une espèce de lutte pour que son mari essaie de faire annuler le mariage, mais tout ça est pour le... une forme de le bien de chaque personne, de pouvoir sortir de l'Afghanistan, quoi que ce soit, fait que quelle est la juste chose à faire, voilà. Et le film est monté un peu dans un mélange chronologique où on part d'une certaine situation, puis on va remonter le temps pour comprendre qu'est-ce qui nous a mené là.
Oui, parce que le film part sur une scène un peu choc,
ouais.
Et là, on va mener jusqu'au récit... qu'est-ce qui amène à cette séquence-là? Donc, un film, comme je disais d'entrée, moi, que j'ai beaucoup apprécié.
Tout à fait.
Intelligent, bien écrit, bien tourné, bien joué. Une thématique qui moi, m'interpelle beaucoup.
De liberté individuelle.
Ouais, tout peu. Ça. Puis tu sais, ce genre de pratique-là qui date quand même... C'est sûr, question de culture et tout ça, là, je porte pas de jugement, mais... C'est dur de concilier des pratiques ancestrales d'autres cultures avec la nôtre pour ceux qui se sont immigrés installés.
C'est ça,
c'est toujours des enjeux intéressants. Et puis, fait qu'on a reçu dans le balado trois personnes de l'équipe du film.
Oui, dans le balado, je pense qu'on oublie de nommer la productrice Valérie Dauteuil parce qu'elle était comme « Ah, je vais être là, mais pas trop, mais peut-être. » Puis là, finalement, rapidement, elle avait des choses à dire.
Oui, on l'a interpellée.
On a eu pas mal de questions techniques sur justement ce tournage international-là.
Il faut dire que ça a été tourné sur l'île de Chypre aussi, fait que ça mène son lot de défis.
Voilà, fait que je pense qu'on l'a dit d'entrée de jeu, Bachir Ben Sadek, Marie Vien et Valérie Dauteuil. Marie aussi a beaucoup de choses à dire. Là.
Ouais.
La bonne première dizaine de minutes, on est avec Marie sur la scénarisation, l'idéation.
On sent qu'elle est très
aussi,
passionnée.
Comme ben, voilà, elle a toujours écrit des scénarios où elle est quand même investie de ben, pas d'une mission nécessairement, là, on le dit un peu, mais tu sais, très touchée par son sujet et non pas seulement justement une commande ou pour remplir des cases. Et on en discute tout au fil de cette conversation-là, de cet échange, à quel point elle est impliquée dans tout le processus. Et vous allez voir à la fin de l'entretien, qui est quand même un genre de 45-50 minutes, là, plus que nous-mêmes on pensait faire, mais il y avait de la matière. Et voilà qu'elle aussi pense que ce serait important que les scénaristes travaillent plus en collaboration avec les cinéastes, justement, pour que le tout soit plus uniforme et homogène. C'est d'ailleurs pour ça, comme tu mentionnes, qu'à la fin ou au début du film, c'est écrit un film de Bachir Ben Sadek et Marie Vien, parce que même si elle n'a pas fait la job de réalisation,
elle a présenté son
idée, finalement. Et je ne vais pas tout résumer. Vous allez, avec plaisir, écouter notre entretien avec l'équipe. Et le film « Ma fille, tu seras libre » prend donc l'affiche le 27 mars partout au Québec. Et nous le recommandons très chaudement.
Alors, on accueille dans le balado Bachir Ben Sadek, réalisateur, qui nous avait donné il y a quelques années « La femme cachée » et également la scénariste Marie Vien, qui nous offre ce film « Ma fille, tu seras libre ». Donc, merci à vous deux de venir nous voir, de jaser de ce film-là très percutant. Jean-François, tu vas d'une première question, je me lance.
Ah, vas-y, Patrick. T'es...
Ben moi, allons-y avec le début. Donc, comment est née cette histoire-là? Est-ce que c'est toi, Marie, qui a eu cette idée-là? Ou c'était Bachir, il vous a été rencontré? Ou comment tout ça s'est mis en place au niveau du scénario?
Ben toute cette idée-là a commencé il y a 10 ans. Okay. Je peux même pas croire il y a 10 ans parce que je suis pas quelqu'un de très lent dans la vie, mais là franchement, je pense que j'ai frappé mon record.
D'habitude, tes idées aboutissent plus rapidement, tu veux dire?
Ben pas si rapidement parce que je suis vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de recherches à la base et je savais absolument pas que j'allais écrire un film sur ce sujet-là. J'ai lu un fait divers dans la presse sur le mariage forcé. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait aussi une dame qui s'appelait Madeleine Lamboli, qui est chercheur, qui avait fait une thèse sur les mariages forcés. Puis, pour une raison ou pour une autre, j'ai été comme complètement interpellée par le sujet sans savoir que j'allais écrire. Là. C'était pas du tout ça. Je fais pas ça d'habitude. D'habitude, j'ai un sujet, puis je vais fouiller parce que je ne fais que des scénarios originaux.
Donc, c'est ce sujet-là qui va vous tous trouver, finalement.
Oui. Et puis, j'ai rencontré Michèle Ouimette de La Presse pour qu'elle me parle de l'Afghanistan, qu'elle me parle de toute l'affaire Safia aussi. J'ai rencontré, je suis à la radicalisation de Montréal pour rencontrer les gens là-bas, puis qui me parlent comment ça fonctionnait aussi dans les écoles, comment ça marchait. J'ai rencontré des Afghans, des Afghanes, des Pakistanaises, des Indiennes, des Maghrébines. Et à un moment donné, j'ai posé pied sur l'Afghanistan. Et après 5 ans, je pouvais vraiment dire que j'avais fait ma maîtrise en mariage forcé. Et je me sentais pas capable d'écrire le film. Je connaissais mon histoire, je savais que je voulais faire une tragédie, je voyais les personnages, mais j'avais vraiment la chienne. Et un jour, je rencontre une Afghane pour la première fois qui s'appelle Khalida. Je vais taire son nom de famille. Et c'est une femme qui venait d'arriver au Québec, une réfugiée, elle avait pas beaucoup de sous. Je lui donne un cachet pour l'entrevue, juste comme pour l'encourager. Et elle m'avait enveloppé dans un papier de soie une carte postale. Et la carte postale, c'était une femme en burqa avec un petit bébé. Puis en dos, elle m'avait dit « Merci beaucoup de dire au monde entier que les femmes afghanes souffrent. » Et donc, ils m'ont dit « Si toi, t'écris pas, Marie, qui va écrire? » Parce que nous, on a peur de perdre nos familles, on a peur de dénoncer. C'est dur de dénoncer. Alors, pour ces femmes-là de première génération, c'est encore plus dur. Je me suis relevée les manches, puis j'ai écrit.
C'est pas juste un film, c'est une mission... sociale, humaine, finalement.
Mais plus grande que moi. C'est parce que je ne sais pas comment dire. Je ne me suis pas dit, il faut que j'écrive. Je n'ai pas voulu faire de morale. Je n'ai pas voulu dire, je suis en mission, je suis une missionnaire, je vais sauver.
Une Jeanne d'Arc.
Non, je n'ai pas fait du tout une Jeanne d'Arc de moi-même. Mais j'ai voulu utiliser, parce que je suis une hypersensible, j'ai voulu utiliser ma sensibilité pour la mettre au profit de ces gens-là en étant le plus authentique possible, puis en donnant à ce personnage qui s'appelle Zarmina un pouvoir, parce que ces femmes-là, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont zéro pouvoir. Puis je me disais, mais si je suis capable dans une fiction de lui donner juste un tout petit peu de pouvoir, qu'elle puisse jouer dans son cœur et de Sam, puis lui donner la force de se battre pour la liberté de sa fille, ben elle aura accompli quelque chose. Puis si ce film-là peut... Puis je vais arrêter de parler, là. Si ce film-là peut ouvrir juste un petit peu la discussion, ben on aura fait un petit bout de chemin.
Et à ce moment-là, avant l'écriture même du scénario, est-ce que vous approchez, exemple, votre productrice, le réalisateur Bachir, ou tout ça est venu quand même après une première version, un premier jet? Ou...
Ben, en fait, j'ai approché... ça s'est fait... Non, ça s'est fait presque 3-4 ans après.
Tu avais déjà bien entamé la recherche. Puis ce qui était drôle, ben, à l'époque, j'avais un partenaire, André Rouleau. Puis, j'avais déjà moi-même commencé un autre projet qui touchait un peu à la question des droits des femmes et tout ça, qui était fonctionnait pas, mais je veux dire, c'était une thématique qu'on avait, puis qu'on avait discuté beaucoup avec André, puis en fait, t'avais rencontré André en premier, je crois. Puis il lui a pitché le projet tout de suite. Il était comme, il voyait l'histoire, ça nous touchait énormément. Puis je veux dire, moi-même qui était dans mon autre projet qui, qui n'aboutissait pas. Puis il m'arrivait à une écriture qu'on adore et tout. Puis on s'est liés. Mais c'est ça, t'avais déjà un concept très abouti à l'époque. Parce que je pense que même la première version d'un scénario est arrivée en quelques mois. En tout cas, du moins à l'intérieur d'une année, on avait déjà une bonne structure de ta part, là.
Oui. Ben oui, oui, puis en fait...
Mais il y a quand même eu un, deux, trois ans par la suite de développement.
Ah oui, c'est long écrire des films avant. Comme ça, parce que il faut trouver... Mais je voulais tellement que tous les personnages aient une humanité. Je voulais que chaque personnage ait une voix, qu'il ait une identité, qu'il ait un passé. J'en parlais pas ici aujourd'hui, mais je veux dire, chaque personnage, je les connais à fond.
Il y a une bible de tous les personnages,
ouais,
comme...
Ben, on fait pas vraiment de bible en film, on en fait plus en télé, mais oui, chaque
vous
personnage, oui c'est ça, puis il y avait une interaction, puis je voulais pas non plus une Zarmina qui était comme trop power, puis qui était puissante, puis qui est une revendicatrice, puis capable de, on en connaît nous des Afghanes comme ça aussi. Non, je voulais une femme. Une belle femme humaine, sensible,
vulnérable,
puis qui était dans la force et dans la fragilité, mmh. En fait. Oui. Ouais.
Il faut dire aussi que pendant ce temps-là, tu as continué à créer beaucoup de contacts avec la communauté. Éventuellement, on a trouvé notre productrice exécutive, Sarah Karimi, grâce à toi. Ça, tu pourras peut-être en parler. Je veux dire, avant qu'on se rende à toi, Bachir, en fait, que c'est arrivé. Donc, c'est vraiment un long processus.
On arrive à Bachir, ouais. on arrive à Bachir. Mais c'est vrai que ce film-là, des fois, on fait des choses dans la vie, pas juste dans les films, qui sont plus grands que nous. Il y a des choses qui arrivent où les choses doivent se faire, puis c'est sur notre route. Puis c'est ça, on s'en va sur cette route-là, puis ça s'appelle la synchronicité de la vie. Et le 18 août 2021, je vais m'en souvenir toute ma vie, je regarde les nouvelles à CNN, je suis en train d'écrire « Ma fille, tu seras libre ». Et je vois cette femme, cette jeune femme qui se filme elle-même parce que son amie l'a appelée puis elle lui a dit « The Taliban are coming in Kabul ». Puis elle, c'est la première femme qui a été nommée à l'Afghan Film Board de Kaboul, l'équivalent de l'ONF, une cinéaste engagée, saluée par Angelina Jolie, accueillie au Festival de Venise, elle a fait Cannes, je veux dire, vraiment une réalisatrice extraordinaire, une grande humaniste qui a fait beaucoup pour les femmes en Afghanistan. Je la vois à CNN interviewée, puis je fais comme, ben là, faut que je parle à cette femme-là. Et moi, je suis chez nous dans mon salon, là, à Montréal, puis elle a pris l'avion, est allée en Ukraine, de l'Ukraine, était acceptée à Venise. Deux jours plus tard, je lui parle. Je lui dis, je fais un film... j'écris ça, est-ce que vous seriez intéressé à lire le scénario? Et là, elle a lu le scénario, elle m'a demandé si j'étais afghane, j'ai dit non. Et puis, elle m'a dit, mais oui, moi j'embarque. Et puis, elle est devenue productrice exécutive. Mmh. Et Bachir Ben Sadek, on s'est rencontrés dans un café, hein, Bachir? Je me souviens, il était assis en face de moi, le beau Bachir. Et il était là.
Je me disais,
bon, ça prend une réalisatrice femme pour faire ce film-là. Et puis on cherchait, hein, Bachir. Puis là, j'ai très généreux, parce que Bachir est très généreux, humaniste, gentil, patient, tolérant.
Aucun défaut.
Ouais, vas-y, je pense que...
Capable d'endurer les femmes intenses comme Banéry d'Auteuil et Marie-Vienne autour de lui. Non, mais... Et donc, à la fin de ce café, je lui dis... je lui lance ça comme ça. Est-ce que tu veux lire le scénario? Non, pas nécessairement pour qu'il puisse le réaliser, mais juste comme, veux-tu le lire? Et il l'a lu.
Oui, parce qu'il faut savoir que Marivia est toujours en train de corriger son scénario. Je pense qu'hier, à l'avant-première, elle corrigeait encore le scénario et le film. Donc voilà. Donc elle est toujours en quête de feedback de lecteur, de voir ça marche-tu, ça, t'as-tu compris ça? Ça a-tu fonctionné? Ah, ok, ah, peut-être que je pourrais changer ça ici. Donc je pense qu'elle était déjà rendue à la 32e version quand je l'ai lu. Et moi, je me suis installé un dimanche après-midi sur une terrasse, fin août, début septembre, pour lire le film. J'ai vu un film, en fait. J'ai lu un scénario et j'ai été happé pendant les 100 et quelques pages que durait ce scénario. J'y ai vu une tragédie grecque, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Ouais. J'y ai vu l'absence totale de jugement vertical ou de morale vis-à-vis des personnages dont on pourrait penser qu'ils ont commis des actes répréhensibles. J'ai vu une grande humanité et une série d'images comme ça qui m'embarquaient. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ça me parle. On dirait que ça parle au réalisateur que je suis. Marivien, c'est une grande scénariste. J'ai vu les films qu'elle a scénarisés. J'ai été pris dans ces histoires. Et celui-là, on dirait qu'il me parle de façon intime. Et que là, mon dimanche soir, j'ai pris un petit peu de temps pour rédiger un texto pour lui dire, regarde, je sais que vous cherchez une femme. Je sais que vous êtes à la recherche d'une réalisatrice, etc. Si jamais ça donne que vous ne trouvez pas, moi je suis intéressé. Et petit chemin faisant, Marie m'a dit, ah écoute, regarde, attendons, je vais sonder mes producteurs. Et ces producteurs ont voulu me rencontrer. Et l'après-midi avant mon départ pour la France pour aller tourner La Femme Cachée, j'ai su qu'il voulait bien travailler avec moi. Donc ça a été le début de l'aventure pour moi. Voilà. Mais il faut dire que ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que aucun des personnages, que ce soit le beau-frère, que ce soit le fils, n'était jugé dans le film.
Non, exact.
Chacun a des motivations qui sont complètement cohérentes avec l'environnement, avec l'état émotionnel dans lequel il est, avec la société dans laquelle il vit. C'est complètement crédible. Et je me suis dit, ça, c'est le fun. C'est le fun d'avoir une histoire comme ça, parce que c'est d'autant plus simple ensuite quand tu vas aller chercher des comédiens. Tu vas pas leur dire, sais-tu, toi, tu vas jouer le méchant, fait que je veux que tu me fasses un méchant. Mmh. Non, tu peux lui amener de la viande et lui dire, son objectif à lui, c'est de sauver la vie de son gars. Parce que son gars, il est né en Afghanistan, puis il aimerait le sortir. Et si ça veut dire marier la petite nièce qui est au Canada, ben c'est un bien moindre mal que au lieu de ça, il pourrait peut-être se faire tuer à un moment donné ici. Fait qu'il y a à chaque personnage, il y avait ce souci-là de lui donner de la viande. Et ça c'est de l'or en barre pour moi, pour un travail avec des comédiens.
Il y a quand même une forme de lien avec La Femme Cachée, justement, de au niveau de la réalisation, des espèces de
thrillerisme,
montage, de relations internationales et tout.
Bah, tu sais, après, c'est chaque film est le reflet du travail de tous les artisans et artistes qui ont contribué. Et à un moment donné, on arrive peut-être dans des choses similaires, mais je vous dirais que...
Ouais, je dis pas pour que c'est une redite, je veux dire...
J'ai pris comme ça. non, mais regarde, parce que ce que j'ai vu, moi, là-dedans, moi, je suis très sensible aux histoires de femmes. Et c'est vrai que j'ai eu ça dans mes deux premiers films que j'avais scénarisés, co-scénarisés. Celui-ci, j'ai pas écrit une ligne sur ce film, mais il a résonné de façon très forte en moi. Et je me suis dit, on dirait que ça t'appelle. Vas-y. Et effectivement, après, pour ce qui est de la mise en scène, pour ce qui est de la lumière, de la réalisation, j'ai été entouré d'une équipe totalement différente de ceux avec qui je travaille habituellement. Et il y a, par exemple, la Claudine Sauvé, directrice photo, qui était l'une des plus grande directrice photo qu'on a au Canada, qui a amené sa poésie, de la lumière, sa solidité en tant que cadreuse, autant dans les rapports, dans les compositions que dans les mouvements. Elle a amené toute une dimension dont j'aurais pas été capable, moi, que j'aurais pas été capable d'amener tout seul, évidemment. Donc et si je continue au décor, la conception visuelle de Jola van Leeuwenkamp qui a amené une cohérence artistique, une évolution dans les décors. Donc c'est sûr que tout ça, c'est le fruit d'énormément de contributions, et la musique de Catherine Major, et le montage. Donc vous voyez, on a travaillé, donc Marie comme Valérie m'ont accompagné pendant le tournage et la post-production, et ça a été un match de tennis à 3, 4, 5 parfois pour pouvoir trouver le ton juste. L'idée, c'était où l'émotion réside-t-elle ? Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à mettre le doigt sur le moment le plus émotif ? Et c'est ça qu'on veut. On veut cette émotion-là pour que le spectateur se sente happé et le garder avec nous.
Et parlez-nous un peu du processus du casting, parce que là, vous avez un scénario quand même qui implique des personnages d'origine afghane et tout ça. Alors, comment on procède pour chacun de ces personnages-là? Et est-ce que toi, Marie, t'as accompagné un peu Bachir là-dedans?
Oui, on était vraiment un couple, hein? Des fois, parfois, un threesome. Mais peut-être qu'il y a une chose à dire avant les Afghans, aussi avant de parler du casting afghan. Il y a aussi Julie Le Breton qui joue dans ce film-là. Et Julie Le Breton amène une humanité où elle se glisse dans ce film sans que rien soit plaqué. Et ça, c'était quelque chose qui était important aussi, qu'on a travaillé beaucoup au montage aussi. Et elle incarne une humanité et une bienveillance, mais pas gratuite. Je veux dire, c'est vraiment une amitié qui se tisse, je dirais, au fil des années, sans que ça soit expliqué. Et comme scénariste, en tout cas, c'est quelque chose d'important, parce que nous, les scénaristes, on veut toujours tout expliquer. Okay? Contrairement aux réalisateurs qui veulent jamais rien expliquer. Ce qu'ils veulent suggérer, ouais, c'est... Les scénaristes, on fait tout le temps le chemin, hein, pour tous nos personnages. Puis c'est vrai qu'après, il faut reprendre le scénario, puis couper les routes, dire, OK, elle a pris ce sentier-là. Bon, et c'est ce qui est arrivé. Je pourrais écrire 3 films sur Nancy, qui finalement, je veux dire, c'était très élaboré, je dirais, pour finalement couper, puis aller dans le plus pur de l'émotion. Il fallait commencer par le début, je dirais, mais pour arriver à cette finalité-là. Mais je voulais quand même souligner le rôle de Julie Le Breton, puis dire qu'au niveau du casting, je vais passer la parole à Bachir, mais c'est rare dans des entrevues là, qu'on a le temps de prendre le temps puis de dire des choses. Mais une des forces de Bachir, c'est le casting. Parce que il y a ce souci d'authenticité qui est à l'écran. C'est sûr que c'est à Valérie et à moi aussi, on a un souci de casting, là, mais il y a vraiment un souci d'authenticité au-delà de la commande, peu importe. Là, et je trouve que c'est une de tes grandes forces, Bachir.
Merci. Mais écoute, le casting, c'est-à-dire que quand on a commencé ça, dans le casting, ça commence finalement quand tu écris tes intentions de réalisation. On te demande d'écrire ce document-là pour pouvoir déposer une demande à la SODEC. Donc, il faut quand même se poser la question des gens avec qui on veut travailler. Et au départ, on était un petit peu encore dans le flou, mais il y a une chose qui s'est invitée rapidement à la table, c'est la question, la contrainte, on va dire, avec laquelle on a décidé de composer et qui est devenue notre cheval de bataille, c'était d'engager une distribution exclusivement afghane pour les rôles afghans. Et Dieu sait qu'on nous a suggéré d'engager telle ou telle personne qui pouvait parler le persan, qui avait déjà incarné des afghanes et qui était une star internationale. Mais c'est Sarah Karimi, donc la directrice, la dernière directrice de l'Afghan Film Organization, qui nous a dit « Gang, on peut-tu avoir des afghanes pour jouer des rôles d'afghanes ? Des afghans pour jouer des rôles d'afghans ? On est tout le temps tassé quand vient le temps de choisir un comédien ou une comédienne. On se fait tout le temps représenter par les autres, par des Indiens, par des Iraniens. C'est une vraie joke des fois, parce que on les connaît maintenant, les acteurs afghans. Tu regardes des films américains où c'est censé se passer en Afghanistan. Tous les premiers rôles sont tenus par des Iraniens. Puis dans les rôles où tu clignes des yeux, où tu rates le gars qui est passé, ça c'est un Afghan. Lui, c'est un vrai. Lui, il aurait pu interpréter. Donc, quand j'ai lu le scénario, je dois dire, étant réalisateur, tu ne peux pas t'empêcher d'essayer de mettre un visage. Mmh. Le premier visage qui est apparu, c'est celui de la grand-mère, le personnage de la grand-mère, Habiba. D'un coup, je me suis dit, hey, la madame là qui jouait dans Kandahar de Mohsen Makhmalbaf, me semble qu'elle aurait l'âge de Habiba. Quand je vois l'âge, c'est... on en a parlé. On s'est dit, mon Dieu, ça serait merveilleux si c'était elle. Ensuite, Zarmina, il fallait en trouver une. Il y a plusieurs visages qui sont invités. Et il y en a un qui s'est imposé, c'est celui de Wajma Bar. La première photo que j'ai vue d'elle, elle avait l'air d'une espèce de princesse avec une toque de poils. Sur l'autre photo, elle a les cheveux tout courts, elle a l'air d'un top modèle, tu sais, où tu te dis, écoute, sais-tu, la dame, notre Zarmina est très fashion, celle-là. Et tout à coup, elle nous envoie un self-tape, puis on a une femme dans toute sa force, dans toute sa fragilité aussi de ce qu'elle amène. Et on se dit, mon Dieu, c'est-tu elle? Et on a eu une coupe de ronde.
On a fait une audition à Paris.
Absolument.
Avec Julie et avec Wajma. Je voudrais juste rajouter quelque chose, comme on a la chance d'avoir Valérie ici, puis qu'on parlait d'acteurs et d'actrices afghans. Valérie, c'est vrai que souvent tu t'es fait dire, prends telle actrice, et c'est tout en ton honneur aussi.
Donc des actrices effectivement iraniennes.
Oui, et puis je dois dire que le film aurait pris un niveau commercial très très élevé si on avait pris...
Tu veux dire son nom?
Oui.
Golshifteh Farahani.
Oui.
Ah, de...
qu'on a vu récemment.
Oui, parce que c'était un rôle...
D'ailleurs.
C'était un rôle parfait pour elle, là. OK? C'était un rôle parfait.
Complètement.
Et Valérie a dit non.
Elle est iranienne, ça?
Oui, elle est iranienne. Oui.
Puis c'est un rôle, elle l'aurait probablement pris parce que c'est un rôle parfait. Puis on avait Sarah Karimi, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vas-y, non, 2 minutes.
Mais j'allais dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour du casting parce que, bon, déjà avec Bachir et Marie, puis je pense que ça s'est vraiment concrétisé justement grâce à Sarah Karimi parce qu'en lui parlant, c'est comme devenu une évidence qu'on n'avait pas le choix de maintenir un cap d'authenticité qui était au-delà de l'artistique, où on voulait vraiment respecter ce parcours-là qu'on était en train de mettre en place, cette histoire-là qu'on voulait raconter des femmes afghanes. Si on allait raconter cette histoire-là, il fallait que la communauté soit en place. Puis dans toute la production, en plusieurs sphères, on a parlé de Sarah, mais il y a eu beaucoup d'autres Afghans qui nous ont aidés pour les costumes, pour le casting. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est Julie, c'était assez une évidence dès le départ. On la voyait, on savait que c'était Julie. Quand on s'est positionné dans l'idée de faire un casting 100% afghan, il y a de très grands artistes afghans, de très grands comédiens afghans. Mais ils sont pas au Canada. au Canada, il y en a très peu. On a eu beaucoup de chance parce que la fameuse Habiba, la grand-mère, Nélofar Pazira, des informations qu'on a trouvées sur Internet, elle habitait potentiellement en Irlande, si je me rappelle bien, de son mari, en fait, est irlandais, un grand journaliste. Puis finalement, elle était basée en Ontario.
Oui, OK.
C'est comme coup de chance. Au Canada, déjà, ouais. C'était pas mal. Puis quand on a regardé, justement, Wajma Bar, en France, puis au final, les acteurs du film, Abdullah, c'est le mari de Wajma, Bayman Ariane Farr. Okay. Coup de chance, un acteur très talentueux. Coup de chance, ils sont ensemble, on accède à ce casting-là. J'ai des amis en France, producteurs, qui nous ont prêté leur bureau pour pouvoir profiter du fait que Julie était en France, pour lui faire des auditions avec Wajma et une autre actrice à l'époque. On a une actrice de Finlande, on a un acteur d'Allemagne, on a failli en faire venir une de Los Angeles, Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. On a pris justement Arezzo qui était en Finlande.
C'est comme une job Arezzo de fou de coordination.
Au Canada aussi, grâce au premier contact que Marie avait fait avec la communauté afghane, on a rencontré l'Afghan Youth Association of Montreal. On a rencontré des gens dans cette association-là qui nous ont mis en contact avec d'autres gens. On est allé mettre des affiches de casting dans les épiceries afghanes, dans les commerces, un peu partout. Ils nous ont vraiment fait rentrer dans leur monde, ce qui a permis de récupérer quelques noms de gens qui ont osé venir en audition, dont Firouz, au final.
Alors, Firouz, lui, c'est génial. C'est... Ouais. Marie m'envoie un texto un après-midi. Elle me dit, hey, regarde, lui, c'est tel contact que j'ai dans la communauté qui m'a dit qu'il avait déjà fait des photos de mannequinat. On peut-tu le passer en audition? Elle m'envoie deux photos. Je dis, sure, on va le prendre. On le cherche encore.
Moi, c'était l'adolescent.
Moi, j'étais découragé parce que j'en trouvais pas. C'est ça. Puis à un moment donné, ça pop, il y en a qui arrivent. Là, il arrive en audition. Puis on s'est regardé avec le directeur de casting. On se dit, mon Dieu, si c'est lui, on est béni des dieux. Ouais. Et on leur a fait faire, en fait, on a eu un carré d'as de jeunes à qui on a fait faire un atelier d'une semaine pour voir comment ils évoluaient, comment leur courbe d'apprentissage dans le jeu à la caméra évoluait, pour finalement se décider pour les deux adolescents qu'on a gardés. Et ça a fait une espèce de d'équipe de rêve. Mais même chose hein, pour la famille. On a eu de grosses discussions à savoir c'est qui Wajma, c'est qui son mari, c'est qui le beau-frère, c'est qui Zarmina, pardon. Et à chaque fois, on a eu la chance de pouvoir aboutir à un scénario, parfois par les contacts que Marie avait établis avec la communauté afghane, parfois quand Sarah intervenait, quand elle disait « Sarah, au secours, on vient de perdre une comédienne !» Tu sais, on avait une comédienne qui devait interpréter une dame de 50 ans censée être la mère du mari de Zarmina, la belle-mère de Zarmina. La dame a pas son passeport, a pas ses papiers en France. Si elle sort de France, elle peut pas y revenir. On est à 2 semaines du tournage.
Deux jours. Et Valérie me dit, c'était le bordel. Oh mon Dieu, que c'était le bordel, cette production-là. Je vous le dis, là, c'était le gros bordel. Ouais. Alors, Valérie, elle me dit, Marie, excusez-moi l'expression, on est dans marbre. J'ai dit, OK.
Il n'y a pas d'autre mot. On envoie des gens en France les papiers, vérifier tout.
Oui,
il y a rien qui marche.
Puis on est à Chypre. Puis là, quand on écrit un scénario, je veux dire, on ne peut pas changer un personnage de 50 ans pour 20 ans. Là. Je veux dire, ce n'est pas une recette de cuisine, ça. Là. Alors, elle me dit, il faut qu'on trouve une solution. Là, je suis dans ma chambre, puis là, je fais, OK, il faut que je trouve une solution.
On demande à Sarah, parce qu'on est à Chypre.
Non, mais on a changé l'âge du personnage, puis c'est devenu sa sœur plutôt que d'être sa mère. Là, change le scénario, je dis, j'ai une solution.
Sachez que nous avions deux plans à l'époque. Il y avait... on regardait... Parce qu'à la base, c'est qui peut voyager à Chypre pour être ici dans moins de 48 heures? Ouais, c'était le critère. Pendant ce temps-là, Marie vient créer une option alternative qui est valide avec Sarah Karimi pour savoir... Est-ce que ce serait crédible que le personnage soit plus jeune? Pendant ce temps-là, moi, je contacte des agences, j'essaie de contacter la planète
Trouver la mère.
On trouve la Californienne.
On trouve la Californienne avec qui on est en discussion, qui pourrait potentiellement venir. Pendant ce temps-là, on n'a pas de réponse parce que là, Marie prépare le plan de
Oui, là, excusez, on chevauche, là, mais je dis à Sarah, là, il faut que je le dise en français. Sarah, la fille qu'on a auditionnée, sur laquelle ça n'a pas fonctionné, OK? Il faut que tu la fasses venir. M'a dit, Marie, on est à Chypre, elle reste genre Reykjavik, OK?
Helsinki.
J'ai dit, ça ne fait rien. Convince her. We need her. We don't have anybody else. Tu sais? Fait que là, elle me dit, OK. Je dis, non. Il faut que tu le fasses, OK? I won't accept a no. Puis là, elle a appelé la fille. Là, finalement, la fille a accepté parce qu'elle devait jouer un autre rôle. Elle n'avait pas eu l'audition. Puis finalement, en 24 heures, on a tout changé le scénario. Là, la fille est arrivée, puis elle a joué ce qu'on appelle...
Elle a pris un congé de son travail parce qu'elle avait aussi un vrai
heures.
Travail.
Partir d'Helsinki pour s'en venir à Chypre. C'est comme...
Est-ce qu'une situation comme ça, qu'on souhaite, n'arrive pas trop souvent, mais du côté de la production, est-ce que ça vient mettre en plan tout le budget?
Je ne sais pas par où prendre cette question.
Mais ça fait partie de la job, mais je disais, t'es comme là.
Déjà, laissez-moi gérer mon choc post-traumatique qui m'est revenu en une seconde.
C'est ça.
Non, mais attendez, la mais question s'adresse à tout le monde ici, parce que le budget,
parce
c'est
parce que
tout.
Ça nous impactait tous. Je veux dire, on reste un film indépendant, subventionné par SEDEC, Téléfilm. On est dans des paramètres budgétaires très tendus. On a le droit de peu dépenser à l'étranger pour pouvoir maintenir les financements. On a des paramètres maximum de dépenses étrangères. Déjà, moi, je sais que s'il faut que je garde tout le monde une semaine de plus, tout explose parce que je suis...
T'as dépassé les limites.
Je suis dans les limites, ouais. Mais s'il faut étirer la sauce et que tout explose, ça fonctionne pas... C'est pas nécessairement couvert par les assurances non plus.
Okay.
Donc, on se dit, OK, ça va être un hit sur le budget global et tout l'équilibre de la suite du film, parce qu'il faut le terminer, il reste la post-production, tout ça. Puis, attends, c'était quoi la question déjà? Je suis en train de...
Ben, c'est un peu ça que ça impacte.
Mais je pense qu'on était tous exsangues. Puis en plus, la pauvre actrice qui rêvait de venir faire le film et pleure au téléphone, on a envoyé des gens à Paris, à l'ambassade, on a contacté tout le monde, des avocats d'immigration, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y avait rien à faire. Je veux dire, puis est-ce qu'on va faire venir quelqu'un qui pourra pas retourner dans... Elle est déjà réfugiée en France et on lui ferait perdre sa vie...
Voilà, c'est ça.
La mettre en danger en état de précarité. Nous, on veut faire des films, raconter des histoires, puis oui, toucher des gens, puis ça peut faire une différence. Je veux dire, c'est la beauté du cinéma de pouvoir le faire, mais je veux dire, là, on est dans des problèmes de politique internationale, de visa. Je veux dire, c'est quand même ça, c'est des niveaux plus qu'on atteint en production.
C'était intense.
Mais sans cette belle équipe qui se revirait de tous les problèmes et le cerveau hyperactif de ma chère Marie-Vien. Puis d'avoir eu accès, parce que Sarah, elle est venue nous accompagner à Chip, d'avoir accès à toutes ces personnes-là. Je veux dire, pendant 24 heures, on était qu'en mode de solution. On allait trouver quelque chose coûte que coûte. On n'avait pas le choix. Les dieux nous ont entendus.
Mais c'était tous les jours. Hein? C'était pas juste 24 heures, Valérie. C'était tous les jours. Tous les jours, il y avait plusieurs défis qui s'annonçaient devant nous, qui demandaient beaucoup de calme en Bachir.
Je parlais de tourner à Chypre. Comment? Oui. Ben, Chypre, parce que là, tu débarques dans un autre monde, des codes culturels différents.
Alors regarde, il fallait trouver un endroit pour évoquer l'Afghanistan sans mettre le cast en péril, on va dire. Fait que c'est Afghanistan, cric cric, on raye. Il fallait un endroit où on soit pas trop près de la guerre. Alors au départ, on avait visé la Turquie. C'était le fun, la Turquie, tu sais. On avait trouvé la ville qui nous plaisait et tout. Puis là, on découvre que en termes d'assurance, c'est quasiment faire un... on paye un deuxième film.
Mais c'était pas tant la Turquie. En fait, c'est un village à la frontière.
C'était
dans ce coin-là. Ouais. Puis cette zone-là était considérée très dangereuse parce qu'il y avait des conflits assez récurrents. Donc c'est l'endroit parfait, mais on ne peut pas se faire assurer. Je ne peux pas amener une équipe de tournage complète sans assurance en tournage. Puis les gens ne sont pas nécessairement heureux. Tu sais, ce n'est pas des journalistes de guerre. Hein. Eux aussi, ils sont là pour créer des films. Puis...
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait quand même la guerre en Israël puis à Gaza, qui est juste à côté. Puis il y a la situation politique juste à côté. Il y a effectivement, comme Bachir disait, le côté géographie comme tel, choix du site. Mais il y a aussi toute l'intensité de ce qui se passe sur ce plateau-là. OK. Et intensité, le mot est faible. Ouais. Parce qu'on est des intenses ici, mais je dirais, par moments, c'était très, très intense parce que la fiction et la réalité ne faisaient qu'un pour ces femmes afghanes vécu ça, qui avaient vécu des attentats terroristes, qui avaient vécu ce que c'était. Et là, tout d'un coup, elle se retrouvait à jouer dans des attentats terroristes. Et là, ils se donnaient tellement que la réalité, la fiction dépassait largement la réalité. Et ça, c'était très, très dur. Et entre eux, il y avait un tel état de souffrance, je dirais, c'était dur à voir aussi, parce que c'est des exilés, c'est des gens qui ont fui, ils se retrouvaient, il y en a qui s'étaient pas vus, ils se retrouvaient là dans le milieu nowhere avec des techniciens Chypre, on se comprenait pas tout le temps, et puis Bachir, cool.
Ben.
Mais l'appart.
Ouais, ben, regarde. Donc, bon, je reviens, mais parenthèse, ce que vient de dire Marie est très important. Il y a la scène où on ramène le corps de Hakim dans la famille. Cette scène-là, on a dépassé la journée de tournage. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça en termes de temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait 2 prises de chaque valeur de plan. Et à la fin de chaque prise, j'allais consoler mes comédiennes et comédiens, et au dernier coupé, ils m'ont braillé dessus leur vie. Celui qui joue le rôle du frère, il réussissait plus à s'arrêter de pleurer. Celle qui joue le rôle de la sœur nous a fait une crise d'asthme tellement elle en braillait. Ça a pris 10 minutes pour réussir à lui ramener son souffle. Et après, pendant le repas, le gars m'annonce tout simplement, il me dit, tu sais, avec un petit sourire, j'étais un peu émotif tout à l'heure. C'est parce que mon frère est en prison en ce moment.
Ah oui.
T'sais? Donc on vivait des situations comme ça. On vivait ces gens-là revivaient des drames, des choses qu'ils avaient vécues, qu'ils avaient vues, et c'était poignant. Et on était tous avec eux. Il y avait une telle solidarité. Les Québécois, les Afghans, les Chypriotes, les gens de partout, ça formait une grosse équipe au service de cette magnifique histoire. Le lieu de tournage. Non, madame, c'est pas là. Chypre s'est invité dans la danse parce qu'on s'est dit on va avoir besoin de montagne, on va avoir besoin d'un petit peu d'aridité, et comme on avait identifié donc cette partie de la Turquie qui était pas loin de la frontière kurde, on s'est mis à regarder les pays autour. Il se trouve que Chypre avait des capacités d'accueil en termes de production, donc une structure pouvant accueillir des entreprises de production, et aussi moi, mon dada, c'est toujours le casting de la figuration. Je suis toujours énervé quand on me dit qu'un film se passe en Syrie, puis que je vois des faces de mes cousins lointains marocains, je suis d'origine algérienne. Je me dis, ils n'ont pas en toute l'air de Syriens. Moi, je voulais avoir des gens qui ressemblent à des Afghans, et je dis, c'est faux, la Turquie, c'est vachement bien. Or, il se trouve qu'à Chypre, la population, oui, elle est hellénophone, ils parlent grec, turcophone, ils parlent turc, mais il y a beaucoup de gens qui viennent du Levant, du Moyen-Orient. Ça se pouvait. Donc, et c'est un lieu dans lequel il y avait des réfugiés. Donc j'ai passé beaucoup de temps à dire, on peut-tu voir des réfugiés ? On peut-tu voir des réfugiés ? On part en repérage, et la commande qu'on leur a faite, c'est, pouvez-vous nous trouver des villages abandonnés ? C'est ce qu'on avait déjà commencé à faire du côté de la Turquie d'ailleurs. Et un village abandonné, ça peut évoquer un village peut-être détruit par la guerre. Et c'est comme ça que petit à petit, accompagné par la directrice photo, la conceptrice visuelle, la productrice Marie-Claire Lalonde en repérage, et une première assistante, on a identifié des lieux qui pouvaient avoir ce potentiel afghan. On avait une espèce de petit catalogue qu'on s'était constitué. On disait que ça se peut, ça se peut pas. On a fini par convaincre tout le monde que c'était la place où il fallait qu'on aille. Et après ça, la magie a opéré, parce qu'on a une conceptrice visuelle, Yola van Leeuwenkamp, qui a fait un mood board de 450 pages, nourri par les conseils de Sarah Karimi et de nos collaborateurs afghans, qui lui ont amené des accessoires, des trucs pour faire la cuisine, des bibelots et tout ça, et par la lumière, la caméra de Claudine Sauvé qui est venue créer un univers afghan. On a vu tellement de photos de l'Afghanistan, des photos de reportage, des photos artistiques, tout ça pour réussir à évoquer ce pays avec la poésie qui était présente dans le scénario, mais pouvoir la mettre à l'écran. Et évidemment, pour finir, il y a eu un petit peu d'effets spéciaux pour ajouter une coupe de montagne dans le background, effacer un poteau ici et là, juste pour donner l'illusion qu'on était au plus creux d'un pays qui était en guerre et qui est très loin d'ici.
Est-ce que vous imaginez que ce serait autant une tâche si colossale quand même, là, de la manière que vous le décrivez et tout? Je veux dire, on n'est pas un tournage sur plateau non plus.
On juste comme le corps.
Ouais, c'est ça.
Par rapport à un tournage à l'étranger, je dirais que il y a beaucoup d'éléments communs auxquels on peut s'attendre d'un point de vue de production. Je dirais, par contre, tu sais, pour avoir fait d'autres films à l'étranger, je veux dire, l'histoire se passe en Thaïlande, on va en Thaïlande, le casting en Thaïlande se passe très, très bien. Nous, notre difficulté, c'est l'impossibilité d'aller dans le vrai pays où l'histoire se passe, parce que clairement, au niveau de la sécurité, c'est impensable. Mm-hmm. Donc ça, je dirais que c'est le gros élément d'un point de vue très strictement de production. C'était vraiment le côté très différent, parce qu'à chaque fois que tu vas tourner dans un autre pays, il faut s'habituer à la culture locale, leur manière de faire les choses, rencontrer les équipes. On cherche des lieux de tournage, on cherche du casting, on établit un horaire. Éventuellement, ça se rapproche, mais c'était vraiment ça la grosse difficulté. Puis nous, la couche supplémentaire aussi venait, je veux dire, c'était une expérience quand même excessivement riche humainement, ce film-là. Puis comme Bachel le mentionnait, la cohésion qu'il y a eu, tu sais, des gens justement à Chypre qui étaient comme, on a hâte de voir le film parce que, tu sais, ma grand-mère, elle a eu un mariage arrangé, elle aussi un mariage forcé. Ouais. Ça existait aussi chez nous, puis on se rend compte que ça touche quand même beaucoup, beaucoup de cultures et très largement. Donc, tu sais, humainement, ça a été très riche, mais c'en était lourd aussi parce que c'était chargé. Et pour nous, très humblement, je veux dire, on était aussi des réceptacles parce que on a quand même une vie un peu plus privilégiée malgré toute notre empathie. On est face à tout ça. La journée dont tu parlais, je veux dire, à la fin, nous aussi, on avait les larmes aux yeux. Je veux dire, t'es devant... On fait une fiction, mais qui replonge des gens dans une détresse qui est très réelle, qui est basée sur un vécu qui est réel, dans lesquels on les replonge. C'est impossible de rester de glace dans une telle...
Puis tu t'attaches aux comédiens, là, vous commencez à faire des
journées. C'est pour ça que c'était très étrange, parce que c'est exactement comme tu mentionnais, c'est que la fiction rejoignait la réalité qui nourrissait la fiction... dans une espèce de boucle
parce que les êtres humains dans ce film-là, tous les êtres humains, Julie Le Breton aussi, tous les êtres humains qui jouent dans le film, ils transportent avec eux une fragilité. Je veux dire, tous, que ce soit le beau-frère qui aux abords peut être un peu plus réfractaire puis plus traditionnel, mais avant même de s'ouvrir la bouche, avant même de jouer ce rôle-là, c'est un homme qui transporte avec lui une fragilité. Puis cette fragilité-là, c'est la guerre, c'est la famine, c'est la violence dans son pays, c'est de voir des femmes qui ont été battues, violées. Et donc, tous ces gens-là, tout ça fait partie de l'inconscient du film. Et je pense que c'est ça qui touche les gens, parce qu'on a fait quand même quelques visionnements avec le public. Puis ce qui touche les gens, c'est cette fragilité-là de chaque être humain dans le film qui, avant même d'être un acteur, est un être humain qui arrive avec son lot de bagages, de souffrance, de poésie et d'intelligence.
Ça fait beaucoup de temps, j'ai peut-être une dernière question, parce que dans cette relation-là, ça arrive des scénaristes qui écrivent un scénario puis après disparaissent du projet un peu. C'est clairement pas ton cas, Marie. Fait que, est-ce que t'es toujours aussi impliqué dans toute la production du film comme ça?
Je dirais que on pourrait dire que je suis comme une productrice au contenu aussi. Je suis quelqu'un qui... J'écris pas des scénarios par commande. J'écris des scénarios qui me prennent des années à écrire. La Passion d'Augustine, ça m'a pris 7 ans. Quand j'ai écrit Le Temps d'un été, je suis allée dans la rue pour aller interviewer les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc, je suis quelqu'un qui m'implique beaucoup, qui s'implique beaucoup. J'écris pas un scénario comme ça en une année. Et ce que j'aime particulièrement faire, c'est de suivre juste la pré-production du film jusqu'au... Là, ça n'a pas été le cas, mais jusqu'au tournage. Puis après ça, être beaucoup plus présent au niveau du montage et de la musique, parce que je suis une musicienne de formation, je suis une pianiste de formation. Et je pense que c'est ça qui fait que dans mes scénarios, il y a comme un... Je ne veux pas devenir réalisatrice. Je leur me l'ai souvent demandé, pourquoi tu ne deviens pas réalisatrice? Je ne crois pas que je serais une bonne réalisatrice humblement, là, sur le terrain. Non, c'est vrai. Sur le terrain, parce que je suis quelqu'un qui est très dense, puis qui... Ah, non, ça ne marche pas. mais là où j'ai un certain talent, c'est d'accompagner le réalisateur jusqu'à la porte du tournage, et on se revoit après. Parce que le montage, c'est très, très proche d'une partition de musique. Hein? Mm-hmm. C'est comme exactement la même chose. Quand il y a un beat de trop, je veux dire, il y a un beat de trop dans la mesure, puis la mesure n'est plus en 3-4, elle est en 4-4, puis ça sonne faux. Mais ça s'arrête là.
Puis toi, Bachir, est-ce que tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais à ce moment-là? Tu connaissais-tu Marie à ce niveau-là?
En fait, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer pour boire ce fameux café où tout a commencé. Écoute, j'ai embarqué là-dedans et je me suis dit, c'est la première fois pour moi que je travaillais. La troisième réalisation, et c'était la première fois que je travaillais avec le matériel exclusivement de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Tu sais, d'habitude, même dans mon passé documentaire, c'était moi qui écrivais mes affaires. Là, il y avait déjà un univers préétabli qui était très clair, qui était très cohérent. Et donc, oui, on a travaillé ensemble. On a eu des discussions, parfois houleuses, parfois musclées, parfois en totale symbiose, parfois sous la pression de la vitesse où il fallait réussir à prendre une décision pour le bien de la prod, pour le bien du film. Donc, c'est une dimension. C'était un apprentissage pour moi de jouer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Puis voilà, je le prends avec moi.
Dans l'univers de quelqu'un d'autre, mais avec quelqu'un d'autre.
Avec
aussi,
quelqu'un d'autre, tout à fait, oui, bien sûr.
Je mets mon chapeau de scénariste. Là. Je veux quand même dire quelque chose. Les scénaristes, là, jamais personne lit les scénarios vraiment. Hein?
Le public
Le public, les journalistes, peu importe. La plupart des scénaristes, ils mettent. Je ne parle pas des cinéastes, je parle des auteurs seulement, là, OK? Ils mettent des années à écrire leur scénario. Ils mettent des années à penser à l'énergie du personnage, à comment il parle, ils sont dans leur histoire. Donc, je trouve ça très sain. Qu'un scénariste accompagne, et je l'encourage, qu'un scénariste accompagne le réalisateur, au même titre que dans la dernière version du scénario, je trouve ça très sain qu'un réalisateur vienne dans la dernière version du scénario, pas pour écrire nécessairement, mais pour dire, voici... Moi, quand je vais prendre ton scénario, je vais le magnifier, je vais l'amener à telle étape. Et c'est important, ce passage du papier à l'écran, qu'on ne fait jamais, parce que c'est tout le temps tellement segmenté, parce qu'il y a des égos des deux côtés, je dirais autant réalisateur que scénariste. Et c'est très important de faire ça. C'est pour le film. Pour le film, moi, quand j'ai fait, un film avec Louise Archambault, elle va me dire, là, Marie, là, écoute, tes dialogues sont tellement longs, on n'en finit plus de finir, OK? Bon, exemple.
Fait que mettons, c'est, exemple.
Mettons. Non, mais j'adore Louise Archambault, OK? Mais alors, donc, OK, ben je vais les revoir. Puis quand j'assiste à la répétition, je les entends, les dialogues. Et puis l'acteur qui dit, garde, c'est encore long, ben OK, on coupe. Fait que là, on travaille. Et donc, le scénariste doit faire partie de cette opération-là. Et c'est très sain. Autant... Sur un lieu de tournage, c'était particulier là, ce qu'on vivait, mais sur un lieu de tournage, je pense pas que c'est la place d'un scénariste. Mais après, si le scénariste est capable de se détacher de son scénario puis de dire « on travaille avec des matériaux », c'est profitable pour le film.
Ben, il s'agit de comprendre tout ce que un scénario est censé générer comme image, comme émotion, comme situation, faut pouvoir lire entre les lignes et s'imprégner de tout ça pour pouvoir ensuite le rendre à l'écran. Et dans le processus, eh ben, on a eu beaucoup de discussions et on a fini par trouver cette espèce de vitesse de croisière qui a fait qu'on a pu arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. C'était effectivement une première pour moi, puis ça a été un bel apprentissage. Je peux pas m'empêcher de repenser à un autre moment où on est à peut-être moi j'enjolive là tout à l'heure, j'ai dit 2 semaines, vous m'avez dit 2 jours là, mais il fallait qu'on trouve une jeune fille à Chypre pour incarner la jeune Zarmina. Et j'étais en train de passer en audition. Tout à coup, il y avait des réfugiés afghans qui apparaissaient à Chypre. C'était génial. Donc, je pouvais rencontrer des Afghans. Donc, tout à coup, j'avais 30 gars qui étaient prêts à faire de la figuration. Mais ça me prenait la petite jeune fille qui se fait marier. Puis, je ne l'avais pas encore. Et à un moment donné, tu en as une qui est rentrée. Et on s'est dit, mon Dieu, en plus, elle s'est jouée. On l'a trouvée. Il y a eu ce moment. Et j'envoyais ça à Marie, à Valérie, en leur disant, voilà, là, j'ai trouvé une petite jeune. Elle nous a fait un self-tape. Je la passe en audition. Si vous êtes d'accord, on embarque. C'est elle, notre Zarmina, notre jeune Zarmina. Un monsieur de 70 ans à peu près, retraité de l'enseignement du droit à l'université, qui tout à coup arrive comme figurant. Et Gadon, sais-tu, on a perdu l'un des 2 vieux comédiens qui est tombé malade. Fait que celui qui devait jouer le rôle du fiancé va devenir le père. Et celui-là, on va croiser très très fort les doigts hein, pour qu'il sache jouer. Il nous envoie un self-tape. On le regarde, on montre à Sarah, tu sais, je dis, on est d'accord, là, il est bon, là, il a pas l'air fake quand il joue en Darry, non, il est bon, c'est bon, monsieur, t'as la job, à condition que t'arrêtes de traser pendant la prochaine semaine pour pouvoir avoir l'air un petit peu poké. Donc, on a eu des moments, des espèces de moments de chance incroyables qui, dans ce parcours forcément chaoteux, sont venus nous redonner à chaque fois foi en notre capacité de mener l'équipage à bien.
Et moi, juste en terminant, pour revenir sur ce que Marie disait, j'ai mis la petite touche au générique où c'est écrit un film de Bachir Bensadek et de Marie Vien. Oui. Ce qu'on voit rarement, et je trouve que c'est très...
Ça me fait tellement plaisir que vous dites ça, parce que c'est mon combat. Ouais. Et
je suis auteur dans une autre vie aussi, dans un autre chapeau, donc
fait,
je comprends
film,
et je trouve ça
mais
fun.
Oui, parce qu'un film, là, c'est une histoire, c'est un scénario, plus une réalisation, ça égale un film. S'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film. Oui. Mais s'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de film. C'est une partition de musique. Ça prend un chef d'orchestre comme Bachir, puis ça prend quelqu'un pour écrire la partition, pour la diriger. Et c'est très difficile. Mais Bachir, il est correct, là, je dirais. Non, mais dans le sens où, je veux dire, on a affaire à un humaniste, quelqu'un oui.
Il était à l'aise avec
qui,
ça.
Qui est, je sais pas, oui. Es-tu à l'aise?
Ah oui, ben c'est ça. C'est totalement le reflet
de notre
travail.
Collaboration. Puis c'est... Plus on va faire ça, plus les films vont être forts au Québec. Je suis convaincue de ça, moi. Mm. Oui.
Ben, je dirais que ça transparaît. C'est vraiment un excellent film sans
merci.
Faille. Vous avez bien relevé tous les défis qui ont mis sur votre pavé.
Un film utile et nécessaire, absolument bon.
Marie, Bachir, Valérie, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.